Mercredi 20 mai 2015, le président du cercle Jean Zay d'Orléans, Pierre-Louis Emery, est venu tenir une conférence à la cité scolaire Paul Scarron de Sillé-le-Guillaume. Une centaine de lycéens ont assisté à cette conférence, ainsi que du public venu de l'extérieur. Le public était également invité. Une conférence pour mieux connaître cet inconnu de la République, Jean Zay, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est réhabilité cette année, puisqu'il fera son entrée au Panthéon le 27 mai prochain, aux côtés de trois autres résistants, dont deux résistantes, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Antonioz et Pierre Brossolette. Monsieur Martin Rittermune, le proviseur de la cité scolaire Paul Scarron, présente d'abord le conférencier.
Bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre présence, et surtout un grand merci à M. Emery qui a bien voulu passer dans notre établissement pour présenter Jean Zay, donc parler de Jean Zay. Donc c'est une passion quand même, parce que quand on voit l'investissement, moi j'ai essayé de lire un peu, de regarder un peu ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu... tout ce qu'il a pu présenter pour cette personne, je pense que quand même ça mérite au moins l'attention et l'attention de tous et de toutes. Alors on a voulu profiter, bien sûr, en invitant toutes les personnes extérieures de la cité scolaire qui pouvaient être présentes. Donc voilà, et merci pour l'association des randonneurs et puis la représentante et avec l'ensemble des personnes qui sont présentes. Et merci encore Monsieur Emery. Et puis on vous laisse la parole.
Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis un ancien professeur d'histoire-géographie au lycée Jean Zay. C'est pas seulement pour cette raison-là que je m'intéresse au personnage. C'est aussi peut-être pour des raisons familiales, puisqu'on était en lien dans la famille avec Jean Zay, donc l'Orléanais. Professeur au lycée Jean Zay, vous voyez ici les plaques qui étaient apposées dans le hall au lycée jusqu'en 1994. Si vous êtes attentif, vous serez surpris par la formulation qui a été gravée. Jean Zay, victime de la barbarie nazie. Et ça explique beaucoup de choses. Jean Zay n'a pas été assassiné par des nazis. Il a été assassiné par des miliciens donc le 20 juin 1944. Et donc en 1994, 50e anniversaire de sa mort, il a été décidé avec l'équipe des professeurs d'histoire de changer cette formulation pour rétablir la vérité historique, assassiné par la milice du régime de Vichy. Ça explique beaucoup de choses parce que, comme le dit l'un de mes amis, l'un des biographes de Jean Zay, Olivier Loube, donc j'ai amené le livre ici, enfin, énième livre sur Jean Zay, c'est un oublié de la République. Voilà un personnage, si un jour vous en lisez quelques textes, quelques écrits, comme celui ici qu'il a rédigé en prison à Rion pendant sa captivité, c'est quelqu'un qui a eu une vision à la fois de la politique, mais aussi dans son domaine de l'éducation nationale et de la culture. Pascal Horry, qui est un historien aussi, qui est de Chartres, et qui a écrit sur l'œuvre de Jean Zay, un très beau bouquin qui s'appelle « La belle illusion », qui raconte toute cette création dans la vie culturelle et tout le bilan qu'il a pu faire de ce que Jean Zay a initié. Peut-être ici, dans la Sarthe, a-t-on découvert, avec les bibliobus, que la lecture pouvait venir jusque dans les chefs-lieux de canton ou les villages. Alors, Jean Zay, vous le savez, entre au Panthéon. Qu'est-ce que le Panthéon ? C'est un bâtiment assez austère, de style néoclassique, qui est en bout de la rue Soufflot, pas très loin du jardin du Luxembourg, donc dans le 5e arrondissement. Ça aurait dû être une église, mais comme ça n'a jamais été consacré, au moment de la Révolution française, on a décidé d'en faire une sorte de temple républicain. Et sur le fronton de ce bâtiment, il y a écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Alors, grands hommes, c'était vrai au début. On y a quand même mis deux femmes, et on va en ajouter deux autres, puisque maintenant on joue la parité. Et il y aura donc aux côtés de Jean Zay, Pierre Brossolette, un résistant qui s'est jeté par la fenêtre, se suicider plutôt que de parler sous la torture. Il y a Geneviève Antonios de Gaulle, la nièce du général. Et puis il y a cet ineffable ethnologue Germaine Tillion, qui, vous savez, dans son camp de concentration, a écrit un opéra. Parce que c'est comme ça aussi qu'on résiste à l'oppression, qu'on résiste à la torture, qu'on résiste à la prison. Et Germaine Tillion, donc, quatrième panthéonisée. Le cadre de tout ceci, c'est faire rentrer quatre figures de la résistance assez différentes les unes des autres. Pour Jean Zay, c'est peut-être un peu nouveau parce qu'il n'a pas été un combattant les armes à la main, il n'a pas transporté de tracts, il était dans sa prison. Et sa forme de résistance, c'était d'écrire, de proposer encore une réforme de l'éducation nationale qu'il n'a pas pu réaliser tant qu'il était ministre, et puis proposer une réforme de l'État, du fonctionnement des institutions, prévoir aussi des éléments pour la reconstruction. C'était un homme, vous le remarquez, né en 1904, il a été assassiné en 1944, il n'avait pas 40 ans. Et il n'a pas été assassiné par hasard. C'était depuis très longtemps une sorte de programmation de sa mort, que l'on voulait politique, et puis civile, et puis totale, et puis l'oubli qui s'en est suivi après son assassinat. Donc je vais essayer de résumer tout ceci pour ne pas être trop long. Jean Zay, donc, est né à Orléans en 1904, dans une famille assez originale, mais très marquée par ce que la République peut faire pour les siens. Sa mère était protestante. Son père était l'un de ces membres de la communauté juive qui avait refusé d'être sous la tutelle allemande dans les années 1871, installé à Orléans, donc d'une famille juive d'Alsace-Moselle. Et école, réussite scolaire extraordinaire, boursier au lycée Potier à Orléans, rue Jeanne d'Arc, et déjà une qualité d'écriture extraordinaire. Je ne sais pas si j'ai le document en question ici. Tout petit déjà, il était un excellent écrivain. C'est ce que réussissait à faire l'école à l'époque. Et pendant que son père était... Ça, c'est au lycée Potier, oui. Pendant que son père était au front, entre 1914 et 1918, Léon Zay, son père, journaliste, rédacteur en chef du Progrès du Loiret, il a fait, comme son papa, il a fait un journal qu'il a appelé Le Familier. Et il le composait avec des colonnes, avec des dessins, des croquis des batailles qui se passaient sur le front. Et là, il a montré déjà une inventivité et puis une qualité d'écriture assez extraordinaire. Au lycée, qu'on ne voit plus, la lycée Potier, oui, il initie aussi la création d'un journal qu'il a intitulé Le potache bouillant. Et puis, étudiant, il est aussi un des co-rédacteurs d'une revue littéraire qui s'appelle Les Cahiers du Grenier. Et il a 20 ans, il écrit beaucoup de textes très amusants, y compris sur les fêtes de Jeanne d'Arc. Et vous savez à quel point Jeanne d'Arc, ça pèse lourd à Orléans. Des études de droit, il n'y avait pas d'université à Orléans. Il va les faire à Paris pour financer tout ça. Eh bien, il travaille auprès de son père comme pigiste, journaliste, et puis il travaille comme avoué, c'est-à-dire collaborateur d'avocat, dans une certaine mesure. Voilà le journal de son père, Le Progrès du Loiret, l'imprimerie est derrière. En ce moment, c'est un petit peu menacé par des opérations urbanistiques. Heureusement, la façade est sauvée, donc protégée par la ministre de la Culture d'autrefois, Aurélie Filippetti, qui a fait beaucoup pour la mémoire de Jean Zay dans les dernières années. Avocat, il est donc intégré au barreau en 1928, mais très vite, il est passionné par la vie politique. Son père était un militant radical. Là, vous le voyez, avocat, je veux dire de quoi retourne cette photo. Et il rentre lui aussi au Parti radical. Il rentre aussi aux Jeunesses laïques et républicaines, qui est une sorte de mouvement de jeunesse où on trouve aussi bien des radicaux que des socialistes à l'époque. Et brillant personnage, déjà grand orateur, qui impressionnait tout le monde, il est capable de faire des conférences en Allemagne, en allemand, pour essayer de rapprocher les peuples, pour faire en sorte qu'une nouvelle guerre ne surgisse pas. Alors, sur la photo que vous voyez, donc numéro 5, avocat avec M. Grulin, grand orateur, il était l'avocat de toutes sortes d'associations professionnelles, aussi bien pour les cheminots de Fleury-les-Aubrais que pour des commerçants, artisans, etc. Là, il défend un assassin. Il défend l'auteur d'un crime passionnel et il réussit à le faire acquitter. Ce qui désormais ne serait plus possible. Hein. On a des possibilités d'appel, aussi bien de la part du parquet que des victimes. Donc, brillant orateur, vous le voyez ici, avec ses lunettes, c'est un petit peu ce qu'on retient du visage de Jean Zay et qu'on va retrouver peut-être bientôt dans un système d'affiches pour ce que nous tentons de faire à Orléans, c'est-à-dire la reproduction du festival de Cannes de 1939 qui n'a pas eu lieu. Donc on vous montrera un petit peu plus loin. Jeune radical, brillant, il va porter la contradiction aux adversaires du Parti radical. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas les médias dont on dispose. Donc quand on faisait de la politique, ça se faisait sous les préaux des écoles. Quelqu'un prenait la parole et puis dans le public, on pouvait interpeller. Et lui, il se permettait, alors qu'il n'avait même pas le droit de vote, parce qu'à l'époque, c'était à 21 ans, il se permettait d'interpeller les candidats opposés au Parti radical. Donc là, on le voit, c'est dans une des grandes salles de l'hôtel Groslot, qui est l'ancienne mairie d'Orléans, les jeunesses laïques et républicaines. Ça a beaucoup compté, c'est à ce titre qu'il est allé aussi en Allemagne porter la bonne parole pour la paix et l'esprit républicain. Il est présenté par le Parti radical. Alors, qu'est-ce que le Parti radical? Maintenant, il y en a deux. Et puis, ce n'est pas grand-chose. Mais sous la Troisième République, c'était le parti dominant, à la fois par son nombre de députés, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, mais aussi par sa possibilité de gouverner avec la gauche ou la droite. Un parti charnière, de plus en plus critiqué, d'ailleurs, par Jean Zay lui-même, qui considérait que c'était un parti qui était en train, pourtant c'était celui de son père, mais qui était en train d'un peu perdre son âme. Ce qui l'a amené beaucoup de réflexions par la suite. Donc il est candidat en 1932, vous voyez, né en 1904. Il a 27 ans et il réussit à battre un vieux conservateur orléanais, un industriel de la pharmacie, qui était, bon, membre du Parti démocrate chrétien. Il le bat de quelques centaines de voix, à la surprise générale. On aime bien, vous savez, en politique, envoyer ou des femmes ou des jeunes un peu au casse-pipe dans des circonscriptions imprenables. Et là, il rallie à son nom aussi bien des socialistes que même des communistes qui, à l'époque, étaient encore enfermés dans la doctrine stalinienne, classe contre classe. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ça en cours. Je pense que c'est un petit peu évacué dans les programmes. Et donc, député à 27 ans et quelques. À l'Assemblée, il participe à beaucoup de commissions, même des commissions d'enquête, quand il y a eu, donc c'est en 1932, quand il y a eu ces émeutes dont on vous a sans doute parlé, le 6 février 1934, à Paris, avec des ligues d'extrême droite, les Croix de Feu, les Jeunesses Patriotes, etc., qui ont voulu renverser le gouvernement d'Édouard Daladier, hein, radical aussi, comme Jean Zay. Et ça s'est transformé en bataille de rue, il y a eu des dizaines de morts, et ça se passait place de la Concorde, c'est-à-dire de l'autre côté de la Seine, de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Et là, il a fait partie de la commission d'enquête pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'était passé. À ce moment-là, lui qui a été un jeune pacifiste, à cause de la guerre, à cause de son père, qui a vu le résultat de cette guerre de 14, c'est-à-dire 1 350 000 morts, il a senti qu'en fait le combat principal, c'était contre le fascisme. Nous sommes en 1934. Et puis il voit aussi ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, son grand désespoir. Hitler arrive au pouvoir 31 janvier 1933. Mussolini est installé en Italie. Alors, il a, par rapport à beaucoup d'autres qui pensaient que la paix était la seule valeur possible, il a dit non, le fascisme, on le combat à l'intérieur, mais on le combat aussi à l'extérieur. On n'est pas dans cette politique que vous avez peut-être abordée, qui est celle symbolisée par Chamberlain au Royaume-Uni, qu'on appelle l'appeasement, c'est-à-dire la conciliation, l'apaisement. Et au bout du compte, qu'on peut appeler le renoncement. Donc, il se mobilise, et en ce sens, tout pacifiste qu'il a été, il a toujours voté des crédits pour la défense à l'Assemblée nationale, pour faire en sorte que la France puisse se défendre et se protéger contre la menace totalitaire à l'Est. À l'Est, c'est-à-dire Allemagne, Italie principalement. Donc, Jean Zay a là une lucidité que n'ont pas beaucoup d'autres. Bien sûr, vous avez des gens qui sont pour la paix jusqu'au bout. On a vu très grands hommes. Moi, je pense à un écrivain comme Jean Giono. Il est resté pacifiste jusqu'au bout. Il n'a pas voulu rentrer dans la résistance, mais il a protégé des résistants dans son coin de Provence. Jean Zay, lui, a été certainement plus conséquent. Alors, député, comme vous le voyez ici... En 1932, il intègre un gouvernement en 1936, dirigé par un radical, Albert Sarraut. Il est sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil, donc du chef du gouvernement. Il se fait connaître, et puis, c'est en janvier 1936, et en mai 1936, il est réélu à Orléans, et alors cette fois-ci beaucoup plus largement, et... il est appelé par Léon Blum en juin 1936 à ce gouvernement de Front populaire et il obtient le ministère de l'Éducation nationale. Ce n'était pas du tout un spécialiste de ces questions, il était très généraliste, il était passionné de culture, d'affaires étrangères, politique générale, mais il s'est mis au travail. Mais quel est ce contexte-là de rassemblement populaire, de gouvernement du Front populaire? Je vous ai dit tout à l'heure les émeutes de février 1934, la menace hitlérienne et mussolinienne. D'où viennent ces dégradations de la situation en Europe? Moi, je fais un parallèle, mais il faut être prudent quand même. Lorsqu'en Allemagne, la crise est arrivée, on a essayé de lutter... contre le chômage, la dégradation des comptes de l'État. Et il y a eu un chancelier, je pense à M. Brüning, qui a mené une politique que vous abordez peut-être, surtout en ES, mais encore que les programmes ont changé, qui s'appelle la politique de déflation. Politique, on pourrait dire, d'austérité. Il ne faut pas dépenser plus que l'on reçoit, qu'on a comme recette. Il faut limiter les investissements. Autrement dit, on obère le futur. On fait en sorte que les projets sont reportés. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence en Allemagne? Faillite des entreprises, chômage et montée du parti nazi sur le plan électoral. Cette même politique a été menée par Pierre Laval, un personnage qu'on retrouve aussi, en 1935. Et ça a eu les mêmes effets. Les moyens, c'était quoi? On renonce aux investissements futurs. On diminue le salaire des fonctionnaires de 10%. Ça, c'est toujours populaire. Et la situation s'aggrave. Donc, ça a favorisé la recherche de solutions alternatives. Et dès 1934-35, je pourrais faire des citations, mais Jean Zay a déjà des propositions qui, dans le Parti radical, le situent très très à gauche. Et je pense que peut-être maintenant, sans vouloir transformer, déformer l'histoire et faire de l'Uchronie, il serait très à gauche. Bon. Donc, ses propositions, c'est alourdir la fiscalité, c'est nationaliser ou mettre entre les mains de l'État un certain nombre de champs industriels d'entreprises, par exemple celle de l'armement. C'est ce que le Front populaire a fait en 1936. C'est alourdir la fiscalité pour les banques. C'est faire des grands travaux pour développer l'emploi et pour améliorer les infrastructures. Donc une politique qu'on peut retrouver à la même époque qu'aux États-Unis. C'est un peu, ce sont les théories de Keynes. Je ne sais pas si on vous parle de John Maynard Keynes maintenant, en terminale ou en première, en ES. Non ? Si ? Ah, quand même. Et donc, une politique keynésienne, une politique de relance. Voilà donc l'esprit de Jean Zay, où il se situe, mais il n'est pas socialiste parce qu'il ne pense pas que la solution se trouve dans la socialisation des moyens de production, ça c'est une formule, comme on dit, l'étatisation de l'économie. Il est toujours partisan de la libre entreprise, mais très contrôlée, et puis, pour favoriser l'initiative et tout ce qui peut être porteur de nouveautés et plus ou moins d'aventures parfois. Donc, nommé au ministère de l'Éducation nationale, et c'est comme ça qu'on le connaît le mieux, il entreprend avec des collaborateurs, il en choisit beaucoup dans ses amis orléanais, je pense à Marcel Abraham, qu'on ne voit pas là. Il était tout petit. Non, il n'est pas sur la photo là. Il entreprend donc une réforme de l'éducation nationale, mais comme vous le savez, très souvent, les réformes, en particulier l'éducation nationale, ça passe pas très bien. Il a son projet rédigé. Il se rend compte que ça ne sera pas voté, en particulier au Sénat, et particulièrement par ses propres amis politiques. Alors, il procède, on ne va pas dire par ruse, mais enfin c'est plus accessible, par décret et par expérimentation. Et donc, il décide, la seule loi qu'il ait fait voter, pardon, c'est le prolongement de la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans. Ça, c'est acté en juillet 36. Mais pour le reste, on expérimente. Alors, vous savez, Jean Zay, et j'en ai un souvenir ému, je ne l'ai pas connu, hein, je suis né après sa mort, Jean Zay a introduit le sport à l'école. Une conception du sport qu'il voulait différente de celle des pays totalitaires. Il ne s'agissait pas de faire des petits soldats. Il s'agissait de prendre en compte chaque élève, chaque enfant, avec un contrôle médical, pour qu'il y ait à la fois l'épanouissement personnel sur le plan du corps, mais aussi, disons, une formation, une pratique, avec d'autres types de sports d'ailleurs que ce qui se développait dans les pays dits totalitaires. Donc quelque chose d'assez original et de véritablement démocratique et républicain. Introduction du sport, 5 heures au lycée, 3 heures de ce qu'on pourrait appeler la gym et 2 heures de plein air. Pour les plus anciens ici, vous avez connu ça, maintenant c'est un petit peu moins. Bon. Il introduit aussi à l'école, alors là cette fois primaire, un petit peu plus de souplesse dans les programmes, des classes découvertes, des sorties. Je ne vais pas citer tout ce qui a été fait, mais c'était, comme on dit, résolument moderne. Inspiré en partie par quelqu'un qu'il a rencontré et qu'il a protégé, Célestin Freinet, qui est donc une personnalité dans l'histoire de la pédagogie, dans l'enseignement, tout à fait remarquable. Donc, prolongation de la scolarité, sport à l'école, classe découverte. Il s'agit de faire en sorte que l'enfant soit véritablement éduqué, élevé. On n'est plus dans l'idée de l'instruction publique, où on donne une sorte de minimum vital pour chacun, très pratique. Sortie scolaire, colonie de vacances. Ici, Jean Zay est à la gare Montparnasse. Il assiste au départ d'enfants du Loiret qui partent en colonie au Sable d'Olonne. Alors, c'est un personnage aussi, vous voyez, qui est assez jeune, même si bon, la calvitie précoce le situe un peu plus loin, mais qui veut absolument que cette jeunesse française profite de tout ce que peut offrir l'éducation nationale, c'est-à-dire l'école, depuis le primaire. Mais il est aussi, et ça c'est le travail de mon ami Pascal Horry, le Chartrain, il est aussi ministre de la vie culturelle. Et dans cette époque, et c'est intéressant, parce que ça peut avoir des échos aussi maintenant, il propose un certain nombre de choses, d'abord dans le domaine des musées. Les musées, ça fait un peu peur, hein, même maintenant. Il propose une politique tarifaire pour faire en sorte qu'un plus large public puisse venir et contempler les œuvres du passé. Il ne s'agit pas de réserver ses œuvres à une élite qui serait la seule apte à comprendre ce qu'on lui montre. Ça, c'est déjà un basculement, si vous voulez. Politique tarifaire. Et puis, il multiplie les musées. Alors, par exemple, le musée de l'homme, le musée d'art moderne, même si tout le monde n'aime pas, c'est déjà aussi un encouragement à une certaine vision de la culture, le musée des arts et traditions populaires, c'est-à-dire reprendre ce qui est les créations, ce que sont les créations artistiques dans les différentes provinces de France, les savoir-faire qu'il s'agit de faire connaître et puis de maintenir. Le musée de la marine, le musée des travaux publics, le musée des monuments français, etc. etc. Il s'attaque aussi, et là c'est assez comique quand on lit son livre, donc ses souvenirs, là, donc Souvenirs et solitude, au monde du théâtre, pour essayer de rénover toutes ces structures, faire en sorte que ces théâtres de province qui étaient en train de mourir puissent survivre avec des subventions. Et ça aussi, c'est nouveau, parce qu'on considérait que le théâtre, les opéras et tout ça, bah, ça devait résulter d'actions de mécénat locales, et beaucoup de théâtres étaient en train de mourir. Il réunit les théâtres lyriques, l'opéra et l'opéra comique. Il crée des théâtres à Orange et à Vienne. Il subventionne aussi la création théâtrale. Il met à la tête de la Comédie française un grand auteur de pièces, Édouard Bourdet. Et puis, bon, il nomme directeur ici ou là. Vous connaissez peut-être le nom de Dulin. Il m'échappe, il était à la tête juste à l'instant. Cet acteur qu'on voit dans Quai des Brumes et autres, Jouvet. Donc, création théâtrale. Je vous ai dit tout à l'heure le livre, la lecture publique avec les bibliobus, donc des bus qui transportent des bouquins et qui vont les proposer dans les campagnes, les chefs-lieux de canton, et qui vont permettre donc au plus grand nombre de ne plus avoir à se déplacer en ville, parce qu'à l'époque on n'avait pas de voiture, hein, et donc d'amener la culture à la population. C'est lui aussi qui réfléchit, et c'est quelque chose d'important, au droit d'auteur et au droit d'édition. À l'époque, quand on faisait un livre, ben on allait chez l'éditeur, il vous donnait des sous, et c'était terminé. Vous n'aviez plus aucun droit sur ce que vous aviez créé. Il a lancé cette piste, il avait un projet de loi, ça n'a pas pu être voté, ça n'a été voté qu'après la guerre. Et là, on retrouve cet esprit visionnaire de Jean Zay. Il pense à un certain nombre de choses, il initie, il lance des pistes, et pour certaines, ça ne se réalise qu'après la guerre. Droit d'auteur, droit d'édition. Autre chose que j'avais montré tout à l'heure, il se rend compte que dans le domaine du cinéma, ça va très mal en France. On a mal encaissé le choc du passage au parlant dans les années 20-30. Et beaucoup de grandes structures, vous en connaissez les noms, Pathé, Gaumont, etc., pour certaines ont été dépassées par les investissements allemands en France, et puis pour d'autres, elles sont en faillite. Il faut donc faire quelque chose pour sauver le cinéma français, qui était quand même le premier cinéma du monde, jusque dans les années 30. Il s'appuie sur l'Institut de Lumière, et puis il est confronté au phénomène du festival de Venise, on appelle la Mostra. Et à la Mostra, on se rend compte qu'on ne donne pas des récompenses aux films qui sont de qualité, mais aux films qui sont les correspondants de la propagande en place, nazie ou fasciste. Donc un documentaire du fils de Mussolini est couronné à la Mostra, en 1937. Des films d'une remarquable réalisatrice, qu'est Leni Riefenstahl, allemande, qui a fait Le Triomphe de la Volonté, un hymne au parti nazi, et puis qui a fait aussi, après 1936, le film sur les dieux du stade, sur le plan technique, sur le plan esthétique, des films admirables, mais qui sont des films de propagande. Donc Jean Zay, à partir de 1937, en lien avec les États-Unis, dit « bon, il faut faire quelque chose, il faut un vrai festival international du cinéma de qualité ». Il était personnellement un fanatique de cinéma. Dès qu'il avait une possibilité de sortir de son ministère avec son épouse Madeleine, il allait au cinéma. Donc, il pense à faire un festival international. Au début, on hésitait entre Hendaye, Vichy, on a échappé au pire, et là, on décide pour Cannes. La Côte d'Azur, un côté sympa, glamour, elle est partie. L'affiche, donc, et pour le prestige de la France, mais aussi pour la qualité. Vous voyez qu'il était prévu, du 1er au 20 septembre 1939. L'Allemagne attaque la Pologne le 1er, la guerre est déclarée le 3, le festival est annulé. Et il n'a réapparu qu'en 1946. Et là, on a complètement oublié Jean Zay, mais dans des magazines de l'époque, j'ai eu entre les mains un Cinémonde qui présente tout ce qui pourrait se passer à Cannes. La sélection des films, les différentes vedettes. Vous en avez vu un, peut-être, qui est passé, sur Arte, bien sûr, en noir et blanc, qui s'appelle Pacific Express. C'est sur l'aventure des lignes de chemin de fer entre l'Est et l'Ouest des États-Unis, avec la rencontre à Denver, pas tout à fait au centre, mais presque, et avec des acteurs connus. Il y a Barbara Stanwyck, vous ne connaissez pas, moi, à peine, mais bon. Et donc, de grands réalisateurs, Cécile B. DeMille, des réalisateurs anglais, tchèques, belges. Il y a aussi des films qui étaient sélectionnés pour la grandeur de ces pays, Angleterre, France, Belgique et autres, des films à caractère colonialiste. Il faut assumer, c'est comme ça qu'on pensait à l'époque la grandeur d'un pays, les colonies. Il y avait des films soviétiques aussi, je pense à La Ligne Générale, de Sergei Eisenstein, donc celui qui a fait aussi Octobre, Le Cuirassé Potemkin. Donc c'est pas de la petite bière, hein, Eisenstein. Donc ce festival est prévu. Depuis 1932, Jean Zay est victime de campagnes haineuses antisémites. Et campagne antisémite, alors qu'en fait, il a été éduqué dans la culture protestante. Il s'est marié au Temple, à Orléans, avec une femme de cette famille, de ces familles protestantes assez nombreuses à Orléans. Et il n'a jamais revendiqué sa judéité, il ne l'a jamais démenti non plus. Il a toujours refusé de se lancer dans des procès et des campagnes pour essayer de lutter contre ce qui est finalement un comportement compulsif. Et là, vous avez une carte postale comme on faisait à l'époque, 1939. Il était déjà réélu député, conseiller général. Alors bien sûr, c'est à Orléans. Il y a donc Jeanne d'Arc, récupérée par l'extrême droite, ce qui n'est pas évident. Parce que Jeanne d'Arc, c'est qui? C'est une jeune femme, habillée en homme, porte-drapeau, condamnée par l'Église, brûlée comme hérétique. Il est quand même curieux de voir récupérée par l'extrême droite, qui vénère l'Église en quoique, qui, sur le plan du féminisme, n'est pas complètement exemplaire. La seule qualité que l'on trouve à Jeanne d'Arc, à Orléans et ailleurs, c'est la possibilité qu'on a de montrer qu'il faut lutter contre l'Angleterre. Donc, quand on est anglophobe, on aime Jeanne d'Arc. Ça ne suffit pas, parce que le personnage est quand même autrement plus dérangeant. C'est une sorte de... avec le décalage, une
sorte d'anachronisme, c'est une sorte de suffragette, c'est, voilà, c'est une femme indépendante, c'est pas du tout une figure qui pourrait être celle de l'extrême droite, et même encore maintenant, ça surprend. Donc, vous voyez là, à gauche, on stigmatise le général, qui est le général de la place d'Orléans, général Bloch. Donc là, on joue sur les patronymes. Jean Zay, député, juif. Le procureur de la République, M. Say, juif. Et le maire d'Orléans, Claude Lévy, juif. On pouvait, à l'époque, disons, malgré quelques lois qui ont été appliquées contre les ligues en 1936, hein, en février 1936, on pouvait mener des campagnes antisémites, racistes, agressives, dans des termes que vous ne pouvez pas imaginer. Des termes qu'on ne pourrait plus utiliser maintenant, qui tomberaient sous le coup de la loi. Cet antisémitisme, il s'appuie aussi sur un texte écrit par Jean Zay en 1924. Il a 19 ans, il pousse, destiné à son cousin. Un texte qui est une sorte de pamphlet, à la manière de Gustave Hervé, bon, et qui parle du drapeau. Et c'est une sorte de dénonciation de la guerre. Et finalement, ce texte est utilisé pendant la campagne électorale de 1932. En 1934-35, c'est repris dans les journaux d'extrême droite, Gringoire, Je suis partout, etc. Et ça l'a suivi toute sa vie. Et je dirais encore, parce que j'entends, j'étais aux cérémonies pour le départ de Jean Zay d'Orléans lundi dernier, le préfet était très ému par cette cérémonie à laquelle il participait, qu'il présidait à l'hôtel Groslot à la mairie d'Orléans, et il a dit qu'il était étonné de voir que cette campagne de haine continuait. Faut-il y répondre ou non? Jean Zay, à son époque, n'y a pas répondu. Nous sommes là, le cercle Jean Zay que je préside, et puis la famille, les deux filles, Catherine et Hélène, un petit peu dans l'expectative. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce type de campagne qui date, qui s'appuie sur un texte de 1924, donc il y a plus de 90 ans. Mais il y a des héritiers. Hein, cette extrême droite, elle n'est pas morte. Elle bouge encore, et peut-être beaucoup. Alors, Jean Zay, donc, au moment de la guerre, contrairement à toutes les légendes qu'on peut dire, il est ministre. Il aurait pu rester tranquillement dans son bureau. Non, il démissionne et il s'engage. Il est sous-lieutenant dans le train. Sous-lieutenant, 14. Il est sous-lieutenant, vous le voyez au centre, il n'est pas très grand, hein, il fait 1m60 à peine. Et il participe à la guerre. Il est cité par ses supérieurs, le colonel Pointou, etc. Et puis, bien sûr, c'est la défaite. C'est la débâcle. On a étudié ça, on a fait un colloque à Orléans sur cette question. Et les troupes françaises sont enfoncées. Pourquoi? Bien parce qu'il y a de grosses erreurs de comportement, de grosses erreurs stratégiques. La stratégie de la France, c'est une stratégie essentiellement défensive. Le symbole, c'est la ligne Maginot. Elle n'a pas été prise en 40, la ligne Maginot. Elle a été prise intacte. Elle a été contournée. Donc, erreur stratégique. Bon, tout ceci, Marc Bloch, que vous ne connaissez peut-être pas, qui était capitaine, qui a été fait prisonnier, qui a été fusillé par les Allemands pour acte de résistance, un grand historien, l'explique très bien dans L'étrange défaite. Donc, la France s'écroule, des millions de personnes déferlent sur les routes, l'armée recule, et donc Jean Zay se trouve, au moment du 17 juin, en Aquitaine. Là, il entend dire que le Parlement va se réunir. Le 17 juin, c'est quoi? C'est le jour où Paul Reynaud démissionne et où il est remplacé par Philippe Pétain. Il avait fait un petit chantage un peu auparavant pour qu'on lui donne une plus grande place. Philippe Pétain arrive avec une liste de ministres toute prête. Et il fait un discours à la radio, vous avez peut-être entendu, l'entend dans certains films, un des films de Pagnol d'ailleurs, me semble-t-il. Il dit qu'il va demander les conditions d'armistice à l'Allemagne, ce que refusent beaucoup de ministres et députés, dont Jean Zay, qui veulent poursuivre le combat. Et il dit aussi, et c'est plus grave, il dit « il faut cesser le combat ». Qu'est-ce que ça veut dire quand des soldats entendent ça, « cesser le combat » ben, ça veut dire qu'entre le 17 juin et le 25 juin, date de l'armistice, 1 million et quelques de soldats se sont rendus et ont été faits prisonniers. C'est une faute politique majeure, largement ignorée du grand public. Donc Jean Zay entend cet appel, le gouvernement est à Bordeaux, Pétain, Laval, l'homme qui monte, Adrien Marquet, Raphaël Alibert, une personnalité sulfureuse et douteuse. Et là, on lui dit, eh bien, le gouvernement et puis les députés et sénateurs vont pouvoir passer en Afrique du Nord pour continuer le combat. Philippe Pétain dit, moi je reste. Et tout le travail a été, en fait c'est probablement un piège, de voir quelle est la responsabilité des uns et des autres. Jean Zay embarque sur un paquebot avec d'autres députés, ministres et autres. Il y a Daladier, qui a été souvent chef de gouvernement du Parti radical. Il y a Georges Mandel, un républicain mais de droite, mais qui a le tort d'être juif. Et puis il y a Pierre Mendès France, et puis etc., etc. Donc ils partent le 21, le 22 on annonce l'accord d'armistice, le 25 juin 40, eh bien on a la signature de cet armistice à Retonde dans la forêt de Compiègne, dans le wagon où a été signé l'armistice de 1918. Arrivé en Afrique du Nord, à Casablanca, au Maroc, les choses se gâtent. Une campagne de presse se déchaîne contre ceux des députés qui étaient soldats sont présents au Maroc. Et à ce moment-là, le sort en est jeté. Le résident général, le général Nogues au Maroc, le fait arrêter le 16 août. Il est transféré en France. Il est jugé au tribunal militaire de Clermont-Ferrand. Et là, toute l'instruction est faite à charge. Et qui sont les instructeurs? Ce sont des militaires. Et quand on sait leur carrière, ce sont tous des militants d'extrême droite. On pouvait se permettre ces choses-là à l'époque. L'armée était composée pour une bonne part, au niveau de l'état-major, un peu un rebondissement par rapport à l'affaire Dreyfus, par beaucoup de membres de l'extrême droite. Et très anglophobe. Donc, il essaye de se défendre. À ce moment-là, il croyait à la justice. Il s'imaginait que c'était un tribunal normal, mais c'est un peu comme la musique militaire par rapport à la musique. Ça a été dissous hein, en 82, les tribunaux militaires, 1900. Donc, en 6 minutes de délibération, le tribunal militaire le condamne à la déportation et à la dégradation militaire. Qu'est-ce que c'est que cette peine? Ça signifie, en principe, la même chose que pour Dreyfus, la déportation en Guyane. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas traverser l'Atlantique sans être coulé par les sous-marins allemands. Donc, on l'interne à Marseille, puis on le ramène à Rion. On lui accorde un statut plus ou moins politique. Mais Jean Zay a 2 jours, il le dit dans les lettres de prison qui sont une édition récente, à sa femme, il n'écrit plus. Il est complètement désespéré. Et puis finalement, il reprend le dessus. Et comment résister en prison? Je vous parlais de Germaine Tillion qui a écrit un opéra. Eh bien lui, il écrit. Il organise sa journée. Là, c'est dans sa famille à Orléans, quand il était tout jeune. On le voit avec un casque là. Donc il écrit, il fait de la gymnastique. Il écrit des lettres. Il écrit des romans policiers. Dans un autre fichier, il y a un roman policier qu'il a écrit sous le nom de Paul Duparc. Il habitait rue Duparc à Orléans. Donc, il écrit aussi des carnets qui sont cryptés. Quand il parle, par exemple, de l'Angleterre et de la situation en Angleterre, il parle d'Ida. Bon, Ida, c'était une vieille cousine qui habitait en Angleterre. Donc, c'est un truc. Quand il parle de Staline, bon, je dis un nom parce que j'ai oublié, c'est Jeanne. Donc, quelquefois, il change le sexe aussi pour parler de tel ou tel personnage de façon à ce que la censure ne se doute pas ou ait du mal à comprendre de qui il s'agit. Il fait de la gymnastique. Il cultive un petit bout de jardin dans la cour qui dépend de sa cellule. Et puis, les choses se gâtent après 1943. Au Maroc, il n'a pas pu voir la naissance de sa fille cadette, Hélène. Les deux filles sont toujours vivantes. Hein. Hélène née en 40 et Catherine née en 1936. Il ne la voit qu'en mai 1941. Donc un an et demi, pratiquement, non, 9 mois après sa naissance. Et il profite des visites quotidiennes de sa famille, privilège du prisonnier, statut presque politique, pour faire passer des documents, ceux qui ont constitué ce livre qu'il a écrit, donc un livre de réflexion, Souvenirs et solitude, et puis des documents pour la résistance, qu'il fait passer par Marcel Abraham, du réseau des musées de l'homme, ou qu'il fait passer à l'organisation civile et militaire, et tout ceci est attesté à la libération pour le faire reconnaître comme résistant, et c'est en tant que résistant et grand homme d'État qu'il rentre au Panthéon. Donc, une activité intense, et vous voyez que, en plus, oui, j'évoquais la culture pour Jean Zay, l'écriture, la culture. Pour se tenir en forme, il se récitait des poèmes. Donc, il y avait des poèmes de Mallarmé, des poèmes de Baudelaire, qu'il aimait beaucoup, etc. Donc, la culture, c'est aussi un moyen de résistance. Quand on a un certain bagage dans ce domaine, on survit mieux. C'est peut-être même plus important que les tourments du corps. Le 20 juin 1944, après le débarquement, ordre vient par la milice, le chef de la milice à l'époque c'est Darnan, ordre vient de le transférer à une prison à Melun. Le directeur de la prison n'est pas au courant. Ce qui signifie que la milice est chargée de l'éliminer entre Rion, où il est en prison, et Melun. Effectivement, 4 personnes, Milou, Cordier et Charles Develle, viennent le chercher à la prison de Rion. Ils l'assassinent près de Cusset, matraque, rafale de mitraillette, et l'assassin qui a été pris plus tard dit que Jean Zay s'écrit « Vive la France ». Or, tout le reproche qu'on lui fait, c'est de ne pas avoir été un bon patriote. En fait, il a combattu, il a résisté, et il a été assassiné par la milice. Alors là, 44, son corps est jeté dans une fosse, on dynamite les rochers voisins, on lui retire ses vêtements, sa bague de mariage, etc., etc. Il est non identifiable. On retrouve 2 corps en 46. Sa veuve, Madeleine, c'est bien entendu qu'il a été assassiné, elle a compris. Mais par qui et où est-il? On ne le sait qu'en 1948. Quand l'assassin, Charles Develle, est rattrapé en Amérique centrale par la justice sur mandat international. Il est ramené en France, il n'est jugé qu'en 1953. Et là, beaucoup de lois d'amnistie, un avocat habile, Maître Floriot, font qu'il n'est condamné que à la réquisition à perpétuité aux travaux forcés. Et 2 ans après, il est libéré grâce aux lois d'amnistie, et il meurt peu de temps après. Donc, le destin, vous voyez, on ne sait pas pendant 4 ans ce qu'il est devenu. Peu de gens portent sa mémoire. Les radicaux ont été battus dans diverses élections à la Libération. Les socialistes, il n'est pas des leurs, même si Blum avait beaucoup d'affection pour Jean Zay. Les communistes, non plus. Les gaullistes, pas du tout. Voilà donc cet oublié de la République qui revient parmi nous à sa place en rentrant au Panthéon. Alors, si vous avez des questions, par la suite, je suis prêt à répondre. J'espère ne pas avoir été trop long et, trop complet. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ceux qui doivent partir en cours, cours.